J'avais préparé un beau message, un beau pour moi, parce que ça parlait du Seigneur Jésus et ça peut que être beau quand on parle de lui. Et j'avais un message qui s'adressait plus aux personnes converties qui connaissent le Seigneur, mais j'ai demandé à M. Go si je pouvais faire ce que j'avais plutôt à cœur encore, c'est plutôt partager l'évangile avec vous cet après-midi. J'ai vraiment un message à cœur, j'ai vraiment quelque chose que je voudrais qu'on examine ensemble et peut-être que quelqu'un vient pour la première fois cet après-midi, ou quelqu'un vient pour la 10e, 20e, 30e fois, mais n'a toujours pas donné son cœur au Seigneur. Et j'aimerais vous adresser à vous aussi un message, peut-être qui pourra vous donner un peu une vision claire de ce que Dieu veut pour votre vie. Une vision de paix, d'avenir, d'espérance, de joie, de bonheur, comme il a été chanté. Et vraiment que Dieu puisse toucher nos cœurs. On va lire, je vous invite à ouvrir sans plus tarder vos Bibles, lire dans l'évangile de Luc. Au chapitre 13, Luc, chapitre 13, on lira à partir du verset 1er au verset 17. Lecture un peu longue, mais je pense que on est capable de se concentrer un peu. Luc, chapitre 13, verset 1er. Je suis sûr que ça peut aussi s'adresser à quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis des années. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint un jour pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Seigneur, tu nous aides encore cet après-midi, nous t'en supplions, à recevoir la pensée qui vient de toi, à recevoir une parole qui va délivrer peut-être quelqu'un de la torpeur, d'une lassitude, du manque de goût de vivre. Seigneur, tu vas nous donner ce dont on aspire le plus au monde, notre paix, de la joie, de la tranquillité dans cette vie où beaucoup de choses, Seigneur, viennent perturber notre paix, notre repos. Seigneur, accorde cet après-midi à plusieurs d'entre nous et à tous même, Seigneur, une pleine confiance en toi, une pleine confiance en ta puissance, une pleine confiance en tes projets pour les hommes et que nous puissions tous goûter à ta puissance, à ta bonté, à ton amour pour nous manifester encore dans cette histoire et cet après-midi, je le crois, dans chacune de nos vies, si nous sommes prêts nous aussi à croire de tout notre cœur. Oui, que ton nom soit béni, que ton nom, Seigneur, puisse être élevé par ce que tu vas accomplir au milieu de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais premièrement faire un petit peu le point sur ce qui est arrivé à cette femme qui était tenue courbée depuis combien de temps ? 18 ans. Imaginez-vous cette femme. Elle vient à la synagogue un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner, et comment est-ce qu'elle vient ? Elle est courbée. Elle est complètement courbée. Qu'est-ce que ça fait d'être courbée, d'après vous ? On ne peut pas se redresser. C'est vrai. Quoi d'autre ? Des douleurs dans le dos. Quoi d'autre ? On ne voit pas très loin. on est ralenti. Très bien. Quoi d'autre? On ne peut pas voir le ciel. On ne voit que ce qu'il y a devant nous. On a du mal à marcher. On ne peut pas travailler. Toute notre vie est paralysée, comme ralentie, comme gênée dans notre marche. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Une femme courbée, c'est une femme peut-être qui est limitée, handicapée, qui est infirme, avec toutes les conséquences qu'on vient d'énumérer, et peut-être sûrement qu'on n'imagine même pas. Cette femme, peut-être qu'elle ne pouvait pas se reposer sur un lit, s'étendre comme elle le voulait. Plein de choses qu'on ne pourrait même pas imaginer, que je ne vis pas, que je n'ai pas vécu physiquement, que je ne peux pas connaître, mais on imagine vraiment la souffrance de cette femme. Infirme, tenue depuis 18 ans. Sa situation est quand même particulière, puisque ce n'est pas simplement la vieillesse qui fait qu'elle est comme ça, ce n'est pas son âge avancé, elle est tenue comme cela par qui? Par Satan, c'est dit. C'est étonnant quand même, la Bible, comme elle est claire, elle nous dit qu'il y a un monde spirituel, et elle nous parle de quelqu'un qui s'appelle Satan. Le diable, vous l'appellerez comme vous voudrez, la Bible l'appelle de ces noms-là, Satan, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi des hommes qui est là et qui tient cette femme depuis pas un an ou deux, ou quelques mois, mais depuis, imaginez-vous, 18 ans. 18 ans, une femme tenue courbée, empêchée d'être libre, épanouie dans sa vie, limitée, peut-être avec une vie douloureuse, etc. Tout ce qu'on a pu voir, cette femme, qu'est-ce qui lui arrive? Elle vient dans la maison de Dieu, elle vient dans la synagogue, Jésus parle, Jésus enseigne, et pendant que Jésus enseigne, qu'est-ce qui se passe? Jésus discerne quel est son mal. Il ne va pas lui dire, alors ma petite dame, vous êtes bien âgée et tout, il ne se trompe pas Jésus. Jésus, il vient vers elle, et qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait que Satan a eu accès à votre vie? C'est ça qu'il lui dit? Comment ça se fait? Vous avez dû pécher, vous, hein, vous avez dû faire plein de choses comme ça. Il lui dit ça, Jésus? Pas du tout. Il vient vers elle. Il lui dit pas, mais tiens, vous n'avez pas touché un peu à la sorcellerie? Vous n'avez pas touché à l'occultisme? Parce que c'est un peu comme ça aussi qu'on donne accès au diable. Tout ce qui est voyance, astrologie, tout ça, c'est une porte ouverte à Satan. L'idolâtrie, toutes ces choses, c'est vraiment une porte ouverte à Satan. Et Jésus ne va pas lui faire de reproches. Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Il va venir vers elle. Il va lui donner une parole d'encouragement. Merveilleux, non? Et il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 12. Parole encourageante. Qu'est-ce qu'elle a dû faire? Oh, elle a dû être étonnée, je ne sais pas. Il ne nous est rien dit d'autre sur elle. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui impose les mains, il pose ses mains sur elle. Il prie pour elle, sûrement. Et à l'instant, elle se redresse et puis elle repart tranquillou chez elle. C'est ça? Non. Elle se redresse et elle glorifie Dieu. Tout ce que Jésus fait a pour but de glorifier le Père et de glorifier Dieu. Tout ce que Jésus va faire. Et on voit cette femme, elle est là, à l'instant, par aussi la foi dans la parole qui est dite, elle va se redresser, elle aurait pu rester courbée, oh non, vous savez Jésus, vous êtes bien gentil, mais moi, ça fait tellement de temps, j'y crois plus. Non, elle se redresse, et là, elle se met à glorifier le Seigneur. Qui aurait aimé voir ça? Moi, les deux mains, j'aurais voulu être là ce jour-là et puis pouvoir constater ce que cette femme a vécu, une délivrance, un redressement merveilleux. Cette femme a été délivrée de son infirmité. Jésus va dire que vraiment, cette femme, eh bien, elle était tenue par Satan et qu'elle va être délivrée complètement. Elle était liée et Jésus va la délivrer depuis 18 ans. Je me souviens quand j'étais à Bédarieux avec papa, il faisait des réunions à Bédarieux puisqu'il travaillait, il était pasteur à Béziers et on allait dans cette annexe, c'était une annexe, je sais pas si c'est encore une annexe aujourd'hui, mais on y allait et un soir, je sais plus si c'était pas un mardi soir, on est allé, papa prêche et puis il y a quelqu'un, une femme qui rentre, qui était courbée. Et à la fin de la réunion, elle vient, on prie pour elle. Et elle se met à retourner à sa place et pendant qu'elle marche, le Seigneur la guérit de son dos et elle se redresse. Et ça a été des louanges au Seigneur, on a vécu quelque chose de beau, ça m'a marqué, j'avais 9 ans. J'avais même moins que 9 ans, j'avais entre 7 et 9 ans, quelque chose comme cela. Jésus est puissant. Ce texte nous montre qu'il est plus puissant que Satan. Certains ont peur du noir, certains ont peur des démons, certains ont peur du diable. Certains ont peur de leur noir, d'une mauvaise œil, je ne sais pas comment vous l'appelez. J'aimerais vous dire que Jésus est plus puissant que tout ça. Qu'importe les liens qu'il y a sur votre vie, qu'importe ce que le diable arrive à faire dans votre famille, dans votre foyer, sur vos enfants, sur votre propre vie, Jésus est plus puissant. Jésus est tout puissant. Il va même parler à la mer et la mer va lui obéir. Il va multiplier le pain. Jésus peut tout faire. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Certaines personnes vont se lever et vont empêcher, vont en tout cas reprocher à Jésus d'avoir fait ça le jour du sabbat. Vous avez vu ? Tout ça, ça nous montre que ces gens-là, ils n'avaient pas du tout compris. Ils étaient bien dans l'église, il y avait même, c'est même le chef, le responsable eh bien, de la synagogue qui va dire quelque chose. Le chef de la synagogue qui va dire « Oh, il y a 6 jours dans la semaine, pourquoi pas venir ces 6 jours-là et laisser le jour du Seigneur vraiment sans travail, sans guérison. Venez plutôt les 6 autres jours, mais pas ce jour-là. » Quelle folie ! Il aurait dû se réjouir que dans son église, dans le temple dont il avait la responsabilité, il puisse se passer ce genre de choses. Moi, j'aurais dit, écoute, Jésus, tu ne veux pas être mon collaborateur ? Ou même, je te donne la place. Hein, j'aurais plutôt dit ça, peut-être. Mais lui, non. Il s'est gris, fixé sur sa religion, etc. Cette femme, au contraire, va être comparée par Jésus-Christ à un âne ou à un bœuf. On l'a vu ? Et il va dire, voilà, vous, le jour du sabbat, vous détachez l'âne, vous détachez le bœuf pour qu'il aille boire. C'est pas vrai ? Oui, il va dire oui, oui. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, ne devait-elle pas être détachée pour être rafraîchie dans sa vie, dans son corps, dans sa santé, dans toute sa vie, dans son ensemble ? Vous savez, on dit que les hommes, avant, il y a bien longtemps, ils étaient courbés, des singes courbés, et qui se sont relevés. Jésus a redonné cette dignité à cette femme. On n'est pas des singes, on n'a pas été créés pour être courbés, on a été créés pour être droit, et bien voir devant nous. Cette femme, sûrement qu'elle ne devait pas avoir confiance en l'avenir, en tout cas, elle ne devait pas s'imaginer grand-chose pour l'avenir. Pour elle, il était noir, il était sombre, elle devait avoir la tête plongée dans ses pieds, plongée dans le moment présent, plongée dans l'instant présent, et puis d'un coup, elle va pouvoir relever la tête et avoir une espérance pour l'avenir. À nouveau, la vie s'ouvre à elle, plusieurs possibilités. Ce pour quoi elle a été créée va lui être rendu, sa liberté de marcher, peut-être même de courir. J'imagine, elle a peut-être couru cette femme. Oh, je peux enfin recourir sans tomber, sans trébucher. Fou. Elle avait peut-être une canne, elle n'avait plus de canne, je ne sais pas. En tout cas, plein de joie. J'aurais aimé voulu voir ça. Cette femme, on pourrait dire, pour lui arriver ça, pour qu'elle soit dans cet état, elle a dû toucher à beaucoup de choses. C'est peut-être vrai. Elle a dû faire beaucoup de choses mauvaises. C'est peut-être vrai. Elle a dû avoir fâché le Seigneur pour qu'elle soit prisonnière de Satan comme cela. Eh bien, j'aimerais vous dire que cette femme, ce n'est pas une situation exceptionnelle. Cette femme, elle représente exactement la vie de chaque être humain sur cette planète Terre tant que Jésus ne pose pas ses mains sur nous. Cette femme, c'est l'exemple parfait des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui sans le Seigneur Jésus. Je vous explique. Dieu nous a créés pour lui. Dieu nous a créés pour vivre droit, pour avoir un avenir, pour avoir confiance dans l'avenir, pour vivre une vie pleine d'assurance, avoir un pas assuré, pour jouir d'une vie. Dieu n'a jamais créé les hommes pour qu'ils souffrent, pour qu'ils soient malades, etc. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance à Dieu, à cause du mépris qu'on a de Dieu, Dieu n'a plus pu bénir l'homme comme il voulait le faire, et Satan a pu avoir accès à nos vies. Et Jésus est venu sur la terre pour nous arracher aux mains de Satan, et nous redonner une dignité, une vocation, une joie de vivre, etc. La première chose qu'on voit, qu'on a lu, le début des textes, c'est « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Il nous est parlé de ces personnes qui sont venues offrir un sacrifice au temple et que Pilate a pris et a tué en versant leur sang en même temps que les sacrifices, le sang des sacrifices qu'ils étaient venus amener. Je l'ai dit, la religion, on a vu, elle ne sert pas à grand-chose. Vous avez vu à quoi sert la religion ? À dire, oh, il y a 6 jours pour venir, le 7e c'est pour le Seigneur, il ne faut pas déranger Dieu. Comme si Dieu avait des horaires de bureau, hein ? Et qu'un jour il était fatigué. Non, Dieu, il veut bénir aujourd'hui. Il n'y a pas de jour favorable, pas favorable. La religion, c'est des préceptes, des ordonnances. Aujourd'hui, oui, demain, non. Et puis comme ça, oui, et comme ça, non. Non. Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, venez à moi. Ouvrez la porte de votre cœur. Toutes sortes de choses. Aujourd'hui, si vous êtes fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Ces personnes avaient une belle religion. Ils étaient venus offrir des sacrifices. Leur religion leur a servi à rien. Jésus va dire, si vous ne vous repentez pas, vous aussi. Ces personnes, elles avaient une religion de façade, elles ont fait plein de sacrifices, mais ça n'avait aucun impact dans leur vie. Et peut-être des gens brûlent des cierges, font beaucoup de prières, font beaucoup d'œuvres pour le Seigneur, dans cette assemblée font beaucoup de choses, mais ça n'a pas d'impact. Ce qui peut donner à quelqu'un d'être libéré de cette oppression, peut-être qu'il vit dans sa vie, ou de ce dégoût de la vie, eh bien c'est d'abord de se repentir de tous ses péchés. Demander pardon. La première chose qu'on a à faire, c'est demander pardon. L'exemple qui nous est donné juste après, c'est quoi? 18 personnes sur qui une tour est tombée. Catastrophique. 18 personnes. Et juste après, comme par hasard, cette femme, elle était courbée depuis 18 ans. Cette femme représente peut-être ces 18 personnes aussi. Était-il de plus grands pécheurs? Cette femme est-elle une plus grande pécheresse? Non, on est tous au même rang. Cet après-midi, personne ne peut regarder quelqu'un d'autre et dire « Oui, je suis meilleur que toi. » Devant Dieu, la première chose qu'on a à faire, c'est tous demander pardon. Parce que la Bible dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Et on est tous au même rang. Ces 18 personnes qui sont mortes n'étaient pas de plus grands pécheurs que ceux de Jérusalem, de plus grands coupables. Non, si on ne se repent pas tous, on périra, loin de Dieu. C'est délicat à parler de ça parce que les gens aiment bien qu'on parle du paradis, pas trop de l'enfer. Mais la Bible prévient, Jésus, c'est dans la bouche de Jésus. Si on ne se repent pas, on ne peut pas être béni de Dieu. Si on ne demande pas pardon au Seigneur, on ne peut pas être sauvé et aller au paradis. Alors tous, la seule chose que Dieu nous demande, la première en tout cas, c'est demander pardon pour vos péchés. Et alors, vous serez sauvés. Et alors, vous pourrez relever la tête. Et alors, vous pourrez goûter à cette vie à laquelle vous avez été appelés lorsque vous avez été créés. Vous savez que vous n'êtes pas là par hasard? Que vous n'existez pas par hasard? Personne ne peut dire, je suis un accident, je suis arrivé par hasard, Dieu n'avait pas prévu mon arrivée sur terre. Personne. Peut-être que vos parents l'ont dit sur vos vies, peut-être que vos parents ne s'attendaient pas à votre venue. Pour certains, c'était une belle surprise, pour d'autres, c'était un fardeau, mais ce n'était pas un fardeau pour Dieu. Dieu avait prévu votre existence et aujourd'hui, il vous dit, je veux vous bénir, je veux vous délivrer de cette vie maussade que le monde vous propose pour vous goûter à une vie bénie, une vie, une qualité de vie spirituelle et divine. Cette femme, elle est là, courbée, et elle va être relevée. Elle ne pouvait pas travailler. Elle ne pouvait pas être utile, et cela nous parle de la troisième partie. Il y avait un homme qui avait un figuier planté dans une vigne. Je l'ai dit un petit peu en préambule, mais pourquoi j'existe? Combien de personnes ne savent pas pourquoi ils existent sur la terre? Combien de personnes n'ont pas goût à la vie? Combien de personnes passent de journée en journée sans savoir quoi faire? Courant après des plaisirs passagers, plaisirs frustrants bien des fois, plaisirs trompeurs, et au final sont de plus en plus vides à l'intérieur, et en viennent à ce constat, mais pourquoi j'existe? Tout le monde, je crois, se pose cette question un jour ou l'autre, pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi j'existe? Et Jésus nous donne la réponse. Si on a été planté sur la terre, si on existe, c'est parce que Dieu veut pouvoir tirer du bon fruit de notre vie, à sa gloire. Dieu est comme ce propriétaire de ce terrain qui est là sur la terre, qui regarde, qui voit la vie de Leslie, qui voit la vie de Madame Penn, qui voit la vie de Madame Jean-Louis, etc. Chacune de nos vies, en plus, il nous connaît par nos noms mieux que moi. Moi, j'en connais quelques-uns, pas tous, mais il connaît votre nom. Et il passe devant votre vie qui représente un figuier, qui est représenté par un figuier. Et il aimerait trouver dans votre vie un bon fruit pour lui. Qu'est-ce que c'est un fruit? Peut-être une louange. Un remerciement, une reconnaissance, ou de la foi pour lui, ou de l'amour les uns pour les autres, de l'amour pour lui, des prières pour ceux qui souffrent, un témoignage pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, ou tout simplement, eh bien, la joie de vivre que Dieu veut donner à chacun. Il passe près de vous, et cet après-midi, il pourrait passer là dans les rangs, à côté de vous. Imaginez-vous Jésus face à vous, et qui regarde votre vie et qui dit « J'aimerais bien trouver dans ta vie un fruit ». J'aimerais bien trouver quelque chose qui me serve à moi. Parce qu'on n'a pas été planté sur la terre, on n'existe pas juste pour les plaisirs du monde ou par hasard ou pour notre propre satisfaction. On est d'abord là pour Dieu. Et si on existe pour Dieu, si on vit pour Dieu, alors nous-mêmes on va être fiers de vivre et heureux de vivre. Parce qu'on va avoir trouvé le vrai but de notre vie. Et il va y avoir une conviction dans notre cœur, sans savoir pourquoi, sans comprendre scientifiquement parlant ou mathématiquement parlant, on va comprendre qu'on a trouvé la vérité. On a trouvé le but de notre vie parce qu'on vit pour celui qui nous a créés. Et l'Esprit de Dieu va confirmer à notre esprit que c'est bien pour cela qu'on existe, pour sa gloire. Et alors on va vivre, toute notre vie va être heureuse parce qu'on va avoir trouvé le but de notre existence. Et Dieu est là, près de vous, près de moi, et il cherche un fruit. Seulement dans ce texte, il nous est dit que pendant 3 ans d'affilée, le propriétaire va passer près du figuier et ne va pas trouver du fruit. Et peut-être que ça fait des années, ça fait déjà 3 ans, que Dieu passe devant vous et dit « Mais alors, j'aimerais trouver du fruit, j'en trouve pas. » Il a été patient, combien? Ça fait peut-être 18 ans, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, j'en sais pas. Pour les plus âgés, il passe devant votre vie cet après-midi. « J'aimerais trouver du fruit, mais j'en trouve pas. » Et une parole vraiment horrible dans ce texte dit « Je trouve pas du fruit chez ce figuier depuis des années, tu vas le couper, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Parole sévère. Et peut-être Dieu en passant, il dit « Mais je trouve pas du fruit dans ta vie. » Et sais-tu que s'il n'y a pas de fruit pour moi dans ta vie, tu vas quitter cette terre, tu n'auras pas été utile pour moi, tu n'auras pas donné ta vie pour moi. Et tu ne pourras pas goûter à cette utilité céleste, le ciel, jouir de la présence de Dieu et être à sa gloire dans l'éternité auprès de lui. Il va dire, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et là, il y a un vigneron. Il y a quelqu'un, un homme qui est venu sur la terre, un homme qui est venu dans ce champ, qui a eu charge de ce champ pour s'en occuper. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va intercéder, il va dire, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour, j'y mettrai du fumier, je vais le bénir, je vais l'entretenir, je vais parler, je vais faire tout ce qu'il faut. Et peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. La sentence est la même. Personne ne peut dire, moi je m'expliquerai dans le ciel pour mes péchés, sur la terre je profite de la vie. C'est justement pour cela que notre vie a été donnée, pour réfléchir à l'éternité et faire la paix avec Dieu avant de partir de cette terre. Et Jésus est comme cet intercesseur. Qui est là, qui dit, oui, je sais que ça fait longtemps que tu patientes, mais encore une année, je vais faire ce qu'il faut. Je vais lui parler. Je vais demander à Jérémie Gadrois de prêcher ce message pour qu'il entende encore qu'il doit porter du fruit pour Dieu. Je vais demander au pasteur, je vais demander aux chrétiens de prier pour lui, afin qu'il puisse eh bien l'interpeller, que son cœur soit travaillé, qu'il ait l'occasion encore un peu de temps, un an supplémentaire, pour répondre à l'appel et pour porter du fruit. Et cette année, c'est exactement ce qui a été prophétisé sur Jésus-Christ. Il est dit qu'il viendra annoncer et proclamer une année de grâce. Nous sommes dans cette année de grâce. Encore un an, encore un peu de temps. Qui sait jusqu'à quand la patience de Dieu va rester? On ne doit pas jouer avec l'avenir, on ne doit pas dire demain, comme la religion nous pousse à le faire. On doit dire aujourd'hui, je fais la paix avec toi. Aujourd'hui, je veux vivre pour toi, je te donne ma vie. Et Jésus est venu sur la terre. Et il a dit non, je vais faire ce qu'il faut, mais ne le coupe pas. S'il ne veut pas de cette chance qui lui est donnée encore, de cette occasion, eh bien oui, tu le couperas, la sentence est là. Il ira loin de toi pour l'éternité, il ira en enfer, mais en attendant, s'il te plaît, sois patient. Et Jésus est là comme un intercesseur qui est venu publier une année de grâce. Est-ce qu'on est utile au Seigneur? Ce figuier, c'est vous, c'est moi. Et Dieu est là cet après-midi. Peut-être que Dieu parle aussi à un de ses enfants. À une personne qui a reçu la grâce de Dieu, qui a reçu du fumier, qui a reçu l'attention du vigneron, l'attention de Jésus-Christ. Et il est là, et il ne porte pas du fruit pour le Seigneur. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous savez ce que c'est, porter du fruit. Vous avez déjà entendu du message, ou au moins, vous avez déjà lu la Bible. Porter du fruit. Portons du fruit pour le Seigneur. Servons Dieu, on existe pour lui. Comment Jésus a guéri cette femme? Parce que d'elle-même, elle ne pouvait pas changer. Et peut-être quelqu'un cet après-midi réalise qu'il ne porte pas du fruit. Réalise que, eh bien c'est vrai, il vit une vie maussade. Il n'a pas goûté à cette vie céleste, à cette vie bénie que Dieu veut donner aux hommes. Il est là, il vit pour les plaisirs du monde. Il vit avec certaines passions, certaines choses qui le dégoûtent à force. Et il aimerait tant une vie supérieure, une vie meilleure. Il aimerait tant relever la tête. Il voit sa vie, il n'a pas confiance en l'avenir. D'ailleurs, son avenir, c'est que des mauvaises nouvelles à cause de dettes ou toutes sortes de conséquences, d'inconséquences qui ont été faites de sa part. Mais j'aimerais vous dire que Jésus peut réparer l'irréparable. Jésus peut restaurer l'irrestaurable. Je ne sais pas si ça se dit. Mais Jésus peut bénir le pire pécheur qu'il ait été, du moment qu'il se repent. Qu'est-ce que Jésus a fait ? La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a posé ses mains sur cette femme. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est venue dans la maison de Dieu. C'est la seule preuve de foi qu'on ait d'elle. La seule. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oh, elle a dû avoir une grande foi pour être au bénéfice de la grâce de Jésus. Non ? La seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue dans la maison de Dieu pour écouter l'enseignement de Jésus-Christ. Et peut-être que la seule marque de foi que vous avez dans votre vie, c'est d'être venu cet après-midi. La première de votre vie, peut-être. Ou peut-être, eh bien, la dernière de votre vie, qui sait ? Ça suffit. Ça suffit à Jésus pour vous bénir. Vous êtes là, si vous êtes venu pour rencontrer Jésus-Christ, pour l'entendre et recevoir une parole pour vous, cette parole que je prêche est pour vous. Jésus va prendre ses mains, il va les poser sur cette femme. Et qu'est-ce qui va se passer ? Elle va se redresser. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte, ses mains ? Les mains de Jésus, pourquoi elles ont pu guérir cette femme de cette infirmité ? Pourquoi elles ont pu la délivrer ? C'est parce que ses mains, je l'ai dit tout à l'heure, elles ont été percées pour elle. Elles ont été percées pour moi. Et elles ont été percées pour vous. Pourquoi Jésus a pu avoir de l'autorité sur la vie de cette femme pour la bénir, la guérir, la vivifier, l'encourager, la délivrer de tout ce qu'elle était, de tout ce qu'elle vivait de mauvais et lui donner une nouvelle opportunité, une nouvelle vie ? Parce que Jésus a payé le prix pour acheter sa vie. La Bible nous dit, et c'est ce qu'on veut entendre chaque jour, ce que les chants racontent, ce que nos prières racontent, nos louanges racontent, Jésus est venu sur la terre non pas pour passer des vacances. Jésus n'est pas venu sur la terre pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Il était au courant, bien trop. Jésus est venu sur la terre pour payer, pour des pécheurs que nous sommes. Pour que ses mains soient percées, non pas par hasard, comme je l'ai dit à la Sainte-Seine, mais volontairement. Parce qu'il voulait payer le prix pour racheter notre vie. Et si vous demandez à Jésus cet après-midi, qui que vous soyez, qu'importe votre état, qu'importe les années dans lesquelles, depuis quand ça fait que vous êtes dans cet état, qu'importe la situation, les circonstances, les mauvaises nouvelles qui vous sont arrivées ou que vous attendez, si vous demandez à Jésus, pose tes mains sur ma vie. Ces mains qui ont laissé verser ce sang, ces mains qui ont été percées, ces mains qui ont été clouées, ces mains qui ont souffert, ces mains qui t'ont fait souffrir probablement sur la croix lorsque tu y étais attaché, ces mains qui étaient ouvertes pour accueillir toutes les vies qui viendraient à toi, pose tes mains pour me laver de tout péché. Bien, Jésus le fait cet après-midi. C'est ça le beau message de l'Évangile. Les mêmes mains qui ont été posées sur cette femme, Jésus les pose sur vous si vous le voulez cet après-midi, si vous l'invoquez, pour qu'il le fasse. Que vous soyez ignorant des choses de Dieu, ses mains vont se poser pour vous racheter, vous purifier de tout péché et pour vous donner une vie nouvelle. Mais peut-être à vous qui avez déjà découvert la grâce mais avez laissé passer du temps sans porter du fruit, ses mains se poseront sur vous pour vous guérir de votre stérilité et vous donner une productivité pour le Seigneur. De porter du fruit, une fertilité divine, quelque chose de surnaturel. Tout ce qu'on ferait pour Dieu, sans avoir d'abord été touché par le Seigneur Jésus, serait inutile. C'est ce que faisaient ces personnes, ces Galiléens. Et Jésus dit, vous savez, on n'est pas meilleur qu'eux, et ils ne sont pas pires que nous. On est tous au même rang. On a juste à demander pardon. Demander pardon. Jésus, viens poser tes mains sur ma vie. Guéris-moi de ma stérilité, guéris-moi de mon impotence, guéris-moi de mon infirmité, guéris-moi de mes liens, délivre-moi Seigneur Jésus. Et à l'instant Jésus le fait parce qu'il nous aime. J'ai dit que Jésus a été cloué sur la croix et j'ai dit que Jésus pouvait guérir encore aujourd'hui. Comment ça se fait ? Parce que Jésus est ressuscité. S'il a donné sa vie pour mourir pour nous, la mort n'a pu le retenir parce que lui était parfait. Lui était pur, c'est pas pour ses péchés qu'il est mort. C'est pas pour ses péchés qu'il a versé son sang, c'est pour les nôtres. Et puisqu'il était lui parfait, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Et quiconque l'invoque, quiconque l'appelle, quiconque dit Seigneur Jésus, viens me guérir, viens me délivrer, viens me sauver de cet ennemi qui me gâche la vie. Eh bien Jésus vient, le relève, l'encourage, le fortifie, dit une parole d'encouragement et le renvoie. Eh bien relevé, restauré, rafraîchi. Qui a besoin d'être rafraîchi dans son cœur ? Qui a besoin d'être rafraîchi dans son âme, dans sa vie, dans son corps aussi. Je crois que Jésus guérit, je crois que Jésus délivre, je crois que Jésus baptise. On l'a chanté dans les deux chants qui ont suivi, le deuxième et le troisième chant. On a dit Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus baptise. On l'a dit encore dans le troisième, Jésus libère. c'est prophétique, parce que c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Qui va entendre la voix de Jésus? Qui va accepter de s'approcher de Jésus pour lui demander de son secours? La grâce est ouverte, les portes de la grâce sont encore ouvertes. Aujourd'hui, si on entend sa voix, n'endurcissons pas notre cœur, mais ouvrons Seigneur Jésus pour goûter à sa grâce et goûter à cette vie nouvelle. Amen. On courbe nos fronts. Seigneur Jésus, je te dis merci Seigneur de ce que tu nous as donné ces textes. Tu n'as pas laissé l'histoire de cette femme par hasard. La Bible nous dit, et tu nous dis dans ta parole, qu'il y a tant de miracles que tu as fait qu'on pourrait écrire des livres sans fin et que tous les livres de l'époque n'auraient pu contenir tout ce que tu as fait sur cette terre. Pourtant, tu as choisi l'histoire de cette femme. Tu as choisi l'histoire de ces Galiléens. Tu as choisi l'histoire de ces Juifs sur laquelle est tombée cette tour. Et tu as choisi l'image de ce figuier pour nous parler et pour nous interpeller à venir goûter à ta grâce. Merci Jésus pour ce que tu vas faire cet après-midi. Je crois que si quelqu'un t'invoque, je crois que si quelqu'un saisit ta grâce, si quelqu'un est prêt à croire à ce message simple, mais vrai parce que c'est toi qui le dis, alors il goûtera à ce que tu as prévu pour nous lorsque tu nous as créés. Seigneur, oui, le diable nous empêche. Oui, Seigneur, le monde ne sait plus reconnaître sa droite de sa gauche, mais toi, ta parole se fait encore entendre cet après-midi pour que nous puissions trouver le vrai sens à notre vie, y marcher pleinement, en liberté, en pleine assurance, pour goûter à cette vie merveilleuse et la faire goûter à tant d'autres. Que ton nom soit béni pour ta parole qui va se faire confirmer, être confirmée par ta puissance et tout simplement dans ton amour. Amen.